RMC.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus, la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
RMC, Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus. D'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovic
Obraniak et de Jonathan McCarthy. Président, quand j'ai été pour la prolongation.
Non, mais Jonathan disait, c'est vrai, pendant qu'on écoutait cet extrait, ce jingle merveilleux, c'était Ténégo avec lui, non? Avec le président Cédou, du côté de Lille.
Oui, t'as raison, n'égale pas, les plus égale le moins, n'égale pas plus.
Et en tout cas, nous, on vous en donne toujours plus dans l'after. On vous rappelle que Noël a déjà commencé dans l'after. La haute est pleine, il y a le grand jeu de Noël là pendant trois semaines. Tous les jours, on vous fait gagner des cadeaux. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Et à la fin de cet after. Oui, il n'y a plus le... Eh, hey, il est où, là, le mec, là? Il est malade, ton père Noël, gros. Voilà, il est là, merci, Torres. Voilà, donc vous envoyez Noël au 7-32-16 à la fin de cet after. D'abord, oui, on annoncera le nom.
Et, ça ouais, stabilise. Non, et moi, je dis, ce soir, je vais vous faire un gros bisou à quelqu'un qui travaille chez nous sur Asver Sport 4, Taylor Lapillus, qui se fait les émissions du FC et qui combat ce soir à 1h45 au Canada pour devenir l'aspirant numéro 1 de la catégorie des poids coqs de l'organisation canadienne TKO MMA. Donc on l'embrasse, on pense à lui.
Parce que c'est quelqu'un de la maison. Pas, s'il te plaît.
Poids coqs.
Vas-y, après.
On peut faire pfff ou pas.
Non, bah, c'est quelqu'un de chez nous. Attends, il est consultant ici. Régale
la bagarre et puis il peut nous casser la gueule.
Le c'est le sosie officiel de Blaise Matuidis pour ceux qui le connaissent.
C'est beau, celui-là. On va passer à ton avis tranché.
Ouais.
Mon Jonathan. Mais avant cela, on va recontextualiser. Vous allez sur le site rmcsport.fr. Il y a des infos qui vous ont été creusées et proposées par Flo Germain. On rappelle que Nantes reste sur une défaite 3-2, que le LOM reste sur une défaite 3-2 face à Nantes. Rudy Garcia était très en colère en conf de presse après cette défaite face aux Canaries. Quelques infos qui nous proviennent de notre Flo Germain. Pas mal d'interrogations à l'OM, alors qui concernent le système de jeu adopté. Alors du coup, Rudy Garcia est stade, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-3-3, il ne sait pas trop. Il cherche son système et le 11 qui va avec. Du coup, les joueurs s'agacent un petit peu. Ils voient Garcia, ça n'arrive pas trop à trancher. Ceux qui ne jouent pas, bah forcément, ils se posent des questions. Il faut retrouver un esprit collectif, a confié un joueur à Flo Germain. Le temps de jeu, certains joueurs en énervent d'autres, compte tenu des prestations et des résultats. Les relations entre certains joueurs, Thauvin et Payet, par exemple, seraient en mode, je cite, « ils se tolèrent ». Et pendant ce temps-là, le président Jacques-Henri Henrot, alors maintient sa confiance envers Rudy Garcia et lui préfère rester discret. Voilà, vous avez toutes ces informations qui sont détaillées par Flo Germain sur rmcsport.fr. Toi, t'es inquiet face au projet de l'OM, Jonathan.
Tout à fait. Écoute...
Attends, on a oublié un truc.
Oui, c'est vrai.
C'est neutre, il y a rien, tu sais même pas quel est leur type de jeu. Si t'as envie d'être défensif, d'avoir une équipe de petites garces qui met des pains, assume et fais-le à fond.
Bon, bah, finalement, ton avis tranché est résumé, là.
Voilà, exactement.
Voilà, merci beaucoup.
Non, mais écoute... Bon, alors, je pourrais faire un énième avis tranché, redondant, en train de casser Rudy Garcia, bah, surtout que là, en plus, il nous a encore donné beaucoup de choses pour un peu lui retailler un costard. Mais on va pas faire ça. Là, ce qu'il faut constater, c'est que Marseille, on est en 6 défaites en 9 matchs, que le fond de jeu est inexistant, que les vestiaires bouillonnent. Je pense que bah voilà, on va diser le papier de Flo, mais c'est évident que le vestiaire ne vit pas aussi bien que l'année dernière, que les temps, il y a beaucoup de tensions entre les joueurs. Et la question qu'il faut se poser, parce que c'est Payet qui en a parlé à la sortie du match contre Nantes, est-ce qu'il y a une crise à Marseille? Moi, je pense qu'il y a un début de crise. Alors, c'est pas encore la grosse crise, parce que Marseille bénéficie d'une chose cette année, c'est la faiblesse affligeante de la Ligue 1 cette année, cette saison. C'est ce qui fait que Marseille est toujours affligeante. Non, la Ligue 1 est indigente, si tu veux. Mais ce qui fait que Marseille est toujours au contact du podium, malgré des prestations et des matchs et des résultats qui ne sont pas du tout au niveau. Mais sans dire que l'OM est vraiment encore totalement dans la crise, moi ce que je vois, c'est que c'est l'ensemble du projet, du Champions Project qui est un petit peu au bord du gouffre. Alors je dis pas qu'il est mort, mais je dis que cette saison-là, elle va être extrêmement charnière. Pourquoi ? Parce que toutes les certitudes que l'Olympique de Marseille pouvait avoir l'an passé, je pense qu'elles sont en train de voler en éclats. Je pense qu'on a tous été bernés l'an dernier par ce qui s'est passé. La saison a été très belle, parce que Rudy Garcia, à son crédit, a réussi à créer une vraie émulation groupe, un vrai esprit de groupe. Tous les joueurs étaient à fond. Je pense que tous les joueurs ont performé à 110% de leur capacité. Et on s'est tous dit, cet effectif est génial. Mais non, en fait, je pense que là, c'est un vrai retour à la réalité qu'on a cette saison-là. C'est que beaucoup de joueurs étaient au-dessus de leur niveau réel, que cette saison, on leur retrouve à leur vrai niveau, que l'effectif n'est peut-être pas aussi bon que ce qu'on pouvait penser. L'effectif est bon, mais c'est pas un
débris de leur niveau, Jonathan.
Il
y a des mecs comme Gustavo, tu les as pas toujours reconnus dans leur match. Adil Rami.
Je pense que des gars comme Adil Rami, comme Bounassar. Alors ok, je vais te le reformuler autrement. outre le fait que certains joueurs aient été au-dessus d'un niveau, je pense qu'il y a des joueurs qui ont pris une année de plus, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient déjà vieillissants, donc Ali Drahmi, Steve Mandanda. Je pense qu'il y avait
On parle des cadres là.
Ouais. Je pense qu'il y avait la carotte de disputer la Coupe du Monde qui a survolté pas mal de joueurs. Je pense par exemple à un Dimitri Payet qui s'est réveillé les 6 derniers mois dans l'espoir d'accrocher le wagon de l'équipe de France. Et je pense qu'en fait, cet effectif, voilà, a joué de beaucoup de circonstances favorables l'an dernier pour faire vibrer la France du football entier. Parce que, faut le rappeler, ils ont quand même eu une finale d'Europa League. Moi, ce que je vois juste, c'est que cet effectif-là, il est en bout de course, que j'ai beaucoup critiqué les choix de recrutement de l'Olympique de Marseille depuis que Jacques-Henri Hérault et Rudy Garcia sont arrivés. Je disais que c'était pas l'OM Champion Project, mais c'était l'OM Recyclage Project, avec soit des joueurs qui avaient déjà joué au club, comme Mandanda, comme Payet, soit des anciens internes. Il y avait le profil un petit peu international, français, qui sont plus vraiment en équipe de France, mais qu'on va prendre, style Rami, style Patrice Evra. Et je pense qu'en fait, cet effectif, depuis le début, il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé, mais il n'a pas forcément été très bien dépensé. Là, quand on voit qu'encore cette saison, cette intersaison, t'as 30 millions, plus de 30 millions d'euros qui sont assis sur le banc en la personne de Thierry Tatsar et Radonjić, tu te poses quelques questions sur la stratégie que Jacques-Henri Hérault et que la direction sportive de l'OM.
Tu t'en poses sur Strootman aussi ou pas?
Strootman, moi je m'inquiète beaucoup. Je m'inquiète beaucoup parce que je pense qu'on a tous été contents, ravis de le voir arriver à l'OM parce que c'est un nom qui est important. Mais je pense que si on avait plus regardé les matchs récents de Strootman et notamment la saison dernière, on serait peut-être rendu compte que c'était un joueur qui avait certes un passé prestigieux mais qui est peut-être un petit peu bouilli physiquement. Alors moi, ce que je veux dire, le fond de mon message, le fond de mon avis tranché, c'est de dire que cette saison-là, malgré toutes les ratés qu'il y a pu avoir dans ce Champions Project, je parle du recrutement, je parle peut-être du choix du coach, je parle des choix du coach aussi, c'est que c'est impératif de sauver les meubles. Parce que si cette saison, t'as pas la Ligue des Champions, je pense que tu vas stagner d'une manière vraiment fatale pour le projet. Parce que si t'as pas la Ligue des Champions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'auras pas la capacité, le pouvoir d'attraction que la Ligue des Champions apporte. L'année dernière, t'as quand même fait une finale d'Europa League, mais t'as pas été foutu d'attraper un grand attaquant, parce que t'avais pas le pouvoir d'attraction nécessaire. Et je pense que si t'as pas la Ligue des Champions, tu pourras pas passer l'étape supérieure. Et je me demande comment ce groupe-là, s'il est pas enrichi qualitativement l'année prochaine grâce à la Ligue des Champions, je me demande comment ça va évoluer, surtout que Rudy Garcia a signé 2 ans.
Après, enfin, on va t'entendre Ludo, juste là quand tu conclus en disant ils ont pas eu le pouvoir d'attraction pour faire venir un grand attaquant, c'est avant tout une histoire d'oseille, hein. Et l'argent que t'investis sur tes recrues, t'aurais pu en prendre une de moins et l'investir sur un joueur supplémentaire. Ah bah si. Je vais donner un exemple tout con. Balotelli, si ça se fait pas pour une histoire de salaire, il y a l'une des recrues que tu prends pas, tu l'investis sur Balotelli, ton problème du neuf il est réglé.
Alors
je te dis pas que ça aurait marché.
Je vais te répondre en deux temps. Le premier temps, c'est que Balotelli, ils étaient prêts à lui offrir.
Je te dis Balotelli, ça aurait pu être quelqu'un d'autre.
Tu me parles de Balotelli, on se rend sur Balotelli. Ils étaient prêts à lui offrir un salaire astronomique, le plus gros salaire de l'histoire du club, 7,5 millions d'euros net par an. C'est tu mets les moyens pour attirer l'attaquant. Mais ils étaient prêts à le faire. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu répondre à d'autres demandes qu'on va qualifier d'extra sportives qui ne découlaient pas du financier. Et le dernier point, c'est juste que très franchement, moi je te donne juste un exemple. Dembélé, même si ça réussit pas forcément à Lyon pour l'instant, ils pouvaient le prendre. Ils avaient les moyens financiers de le prendre. Mais t'as un club qui joue la Ligue des Champions qui est Lyon et un club qui la joue pas, c'est l'OM. Simplement.
Ludo, ton avis là-dessus, toi?
Après,
il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jonathan.
Après avoir entendu l'analyse de l'énarque Jonathan McCarthy, on aura l'analyse de l'homme de terrain qui a connu justement Rudy Garcia.
Quel mépris, monsieur.
qui a eu la chance.
La chance.
J'espère que ça a été une chance d'avoir été dans son vestiaire. Donc je connais un peu l'homme et j'y vais aller dans ton sens. C'est vrai que je l'ai beaucoup défendu, mais c'est vrai que là, je trouve qu'il arrive dans une impasse.
T'as vu que j'ai pas parlé de lui, hein, ce soir.
Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est son discours.
Je le vois.
Notamment après le match contre Nantes.
Il arrive plus à trouver au niveau de sa communication, lui qui a toujours été très brillant, il se perd un peu.
Remarquez que j'ai pas parlé de lui.
À force de ne plus savoir trouver d'excuses, il invente des choses qui n'ont ni queue ni tête.
Ah bah là, contre Nantes, hein, c'était la faute des joueurs encore. Hein.
Voilà. Donc après, prenons.
Après une fois que c'est pas de la faute de l'arbitrage.
Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit non plus, parce que certes, Rudy Garcia a sa part de responsabilité, puisque c'est l'entraîneur en charge de l'Olympique de Marseille. Mais reprenons un peu l'historique, c'est-à-dire que il a réussi à tirer le meilleur, en tout cas une partie du meilleur de cet effectif qui n'a quasiment pas changé.
C'est ce que je t'ai dit. Hein.
Donc,
à son crédit, la saison dernière, il a tiré
100%. Pour moi, la solution, elle est dans, enfin, ou du moins, son avenir tient dans sa capacité à remobiliser ce groupe-là. Or, il a donné des chèques en blanc à certains joueurs. Le problème de Rudy, c'est que lui, il fonctionne avec 13-14 joueurs, en gros, et qui, Moi, quand j'étais à Lille, c'était souvent comme ça.
Non, mais là, il d'ailleurs... peut pas. Il a les Coupes d'Europe, il a tout ça. Notamment la saison dernière, lui.
Oui, mais il change pas des masses. C'est-à-dire qu'il ménage toujours la chèvre et le chou. C'est-à-dire qu'en ce moment.
Il y a eu combien de journées de Ligue 1?
Il a pu s'appuyer.
16. Et ben, il y a eu 16 compositions d'équipe.
Il a pu s'appuyer. Oui, mais pas vraiment. Il change les systèmes. Il change pas vraiment les hommes. Pas vraiment.
Regarde ça comme regarde.
Pas
sa
vraiment.
Défense.
Il change le.
Mais Ludo, sa défense. Ça... On a attendu peut-être 10 journées avant de voir deux défenses similaires qui succèdent. Alors, il y a eu des blessés. Il y a des circonstances.
Je te parle des hommes forts. Je te parle pas des joueurs qui viennent d'arriver. Je te parle d'Adil. Je te parle de Dimitri. Je te parle de Strootman, de Gustavo. Je te parle de ces mecs-là. Je te parle de mecs qui ont du poids dans cette équipe. Je te parle de Steve Mandanda. À un moment donné, ces joueurs-là, il a réussi à en tirer le meilleur. Il a aussi donné de ces joueurs-là lui doivent quelque chose. Dimitri Payet, c'est lui qui le fait revenir, c'est lui qui lui donne le brassard. Aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte le niveau et des joueurs actuels.
Moi, je te parle pas ce soir. Je t'ai pas parlé de Rudy Garcia en particulier. Je t'ai juste parlé de la structuration institutionnelle du projet de Marseille depuis que Jacques Henri Hérault et Macourt sont arrivés.
Mais moi, je me projette sur l'avenir.
Là où je pense que la vraie responsabilité de Garcia est engagée. C'est dans la mesure où depuis qu'il est arrivé, il a les clés du sportif. C'est lui qui a structuré cet effectif-là. C'est lui qui a décidé de dépenser autant d'argent sur le transfert et sur le salaire de Dimitri Payet. En fait, l'effectif, c'est lui qui l'a construit.
J'ai lu.
Après, je te laisse. Il y a une autre chose qui m'inquiète un petit peu. Pour parler plus spécifiquement de Rudy Garcia, j'ai l'impression qu'il est en train de flinguer certains joueurs. Et je pense, par exemple, au petit Bouba Camara. Qu'il a fait jouer latéral droit, qu'il a fait jouer latéral gauche. Là, latéral gauche, il fait un match catastrophique. On sait que c'est un des grands talents, un des grands potentiels en France au poste de défenseur central. Mais là, il est en train de le cramer. Et je m'inquiète de la manière dont tu gères Camara et dont tu gères les recrues, Sarr et
tactiquement, il essaye de trouver des solutions et il trouve pas les bonnes solutions. Honnêtement, il devrait mettre les cadres devant leurs responsabilités.
Aussi.
Définir un système bien établi en mettant les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. C'est-à-dire, et arrêter avec les états d'âme. J'ai lu le mot de Flo Germain. Et il y en a un qui boude. Et il y en a un qui n'est pas content parce qu'il n'a pas été capitaine. Et l'autre qui est sorti à la mi-temps. Et là, terminé tout.
Alors, il essaye de ménager ça, parce que Flo le dit, il va avoir les joueurs un par un dans la chambre quand il fait ses compos d'équipe, etc.
Mais moi, ça, il le faisait déjà avec nous. Et c'est un truc qui peut marcher quand tu gagnes. Moi, nous, ça marchait parce qu'on gagnait tous les matchs. Mais quand il vient... toqué à ta porte, tu demanderas à mon collègue de chambre qui était Franck Beria. Alors lui, il s'enfermait dans la salle de bain parce qu'il était mort de rire. Mais quand tu savais que ça toquait à la chambre, tu savais que tu l'avais dans l'os. Et il y a rien de pire que 2 heures avant le match d'entendre le coach vient. Et puis il a un discours un peu mielleux où il essaye de t'endormir en disant oui, mais tu vas peut. Et moi, j'avais une paire de glands de comme ça, mais tu peux pas imaginer. Mais là, ces mecs-là, honnêtement, à l'heure actuelle. Les joueurs de l'Olympique de Marseille, tu peux pas avoir d'état d'âme. Aujourd'hui, il est dans une urgence.
Il y a des mecs qui s'embrouillent ou pas à l'époque quand ce genre de choses arrivait?
Surtout s'ils ont une paire de glandes.
Non, parce que t'as le résultat. T'as les résultats. Moi, je savais que
ça marche si
moi,
tu
devant
gagnes.
Moi, il y avait Gervinho, Hazard, et au milieu, t'avais Cabaye, Balmont, ça fonctionnait. Tu peux pas revendiquer une place de titulaire quand les mecs devant toi sont meilleurs.
Ça marche quand ça gagne de toute manière.
Voilà. Mais là, les joueurs de l'OM, il y a quelques joueurs qui sont des bons joueurs et qui commencent à trouver le temps long. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il arrête avec les états d'âme de protéger certains.
Avec les statuts.
Les gars, on accueille Greg qui est supporter de l'OM et qui nous a appelé au 32-16 et qui est donc en direct avec nous dans l'after. Salut Greg.
Oui, bonsoir tout le monde.
Ça va, les gars? Oui, et toi alors, ça va, Greg?
Les temps sont durs, hein. C'est un peu, on est partagé entre deux, quoi. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu penses de l'avis de Jonathan? Alors, c'est vrai que il y a toutes ces infos qui ont été révélées par Flo Germain sur le site rmcsport.fr. Jonathan qui dresse lui aussi, finalement, une carte postale assez noire de ce qu'est l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette situation, finalement?
C'est triste à dire parce que voilà, on est quand même un grand club de France, je pense, et on.
Le plus grand.
Ouais, pas le plus grand, mais voilà, bon, on va pas débattre.
Historiquement,
mais...
si.
Oui,
bon, un grand club, ça c'est sûr.
On est un grand club et on joue sans attaquant, quoi. C'est grave, quoi. Moi, c'est ça qui me rend fou, quoi. Voilà. Alors, on a essayé Germain, on a essayé Mitroglou, on a fait jouer Engie, la première mi-temps à Amiens, qui était pas catastrophique, quoi. Moi, je l'aurais bien revu jouer à Nantes, Amiens.
Non.
Engie, pour essayer. Je suis désolé, Germain, il a eu une mi-temps assez compliquée, Mitroglou il rentre, il a pas touché un ballon.
Faut mettre Lucas Ocampos en numéro 9.
Lucas, on sait ses qualités, mais on sait ses défauts aussi, quoi. Il va provoquer, mais combien de ballons il perd par match Ocampos?
Il va aller au combat, il va peser sur la charnière adverse, il va ouvrir des espaces pour les autres.
Pas, hein. Eh oui, ça suffit pas. Il faut un peu de technique aussi. C'est bien beau d'aller courir de partout, mais passé un moment, il va falloir faire le bon geste, la bonne passe, qu'il va falloir faire la différence. C'est bien beau, Campos. Après, c'est une méforme aussi générale, comme je disais à l'antenne. C'était une année Coupe du Monde l'année dernière. Donc la mayonnaise, elle a pris. On a eu beaucoup de réussites. Des gars comme Rami, comme Bounassar, qui ont quand même fait une bonne saison.
Mais tu veux dire quoi? Qu'ils étaient motivés parce qu'ils savaient qu'il y avait la Coupe du Monde au bout, c'est ça?
Ça joue, hein.
Ben ouais, je pense. C'est une motivation, quoi. Rami, sur la saison qu'il a fait dernière, si la Coupe du Monde, c'est pas par hasard, quoi.
Payet aussi.
Les résultats qu'il a fait, les matchs qu'on a fait, hein.
Dimitri Payet aussi.
Oui, mais bon, Dimitri Payet, il nous fait un bon match sur trois. On va le voir un match, il va briller.
L'année dernière, il a quand même fait les 4 derniers mois, il était quand même très régulier dans les très bonnes performances.
Bien sûr, mais un bon joueur de foot, c'est pas un mec qui joue que 3 mois dans l'année, il faut qu'il joue toute l'année. Je préfère qu'il soit peut-être un peu moins bon, mais qu'il soit régulier, que faire 3 bons mois et après ne plus le voir de la saison, quoi.
Mais moi j'en reviens encore une fois comme tu le dis à juste titre, la Coupe du Monde a fait énormément de mal à l'effectif de l'Olympique de Marseille pour différentes raisons. T'en as qui ont été sélectionnés, d'autres pas, d'autres qui se pensaient jamais être à ce niveau-là. Donc voilà, il y a Flo Thauvin qui réalise un très bon début de saison, mais c'est vrai statistiquement, ouais. Et c'est vrai qu'on l'a déjà vu meilleur au niveau du jeu. Dimitri Payet qui a cette frustration d'avoir loupé la Coupe du Monde. Thauvin, on en parle, qui a gagné mais qui a pas vraiment l'impression de l'avoir gagné. Adil qui est sur le toit du monde, il est champion du monde puis il sort avec l'ex bimbo d'Alerta Malibu. Enfin tu vois les mecs à un moment donné, même Steve Mandanda, il a toujours été exemplaire.
Catastrophique.
Je le sens démobilisé.
Tu parlais de l'histoire du brassard tout à l'heure, il fait partie de ce. Bah c'est lui qui a perdu le brassard.
Je l'ai jamais entendu se plaindre.
Il accuse peut-être le coup, tu vois.
Mais c'est quoi ces excuses en bois?
Mais je te dis pas excuse, peut-être que le mec accuse le coup, il a le droit de.
Il restera.
Vous savez des états d'âme.
Je vais vous dire pourquoi il accuse le coup, et je pense que Flo Germain pourra le confirmer, c'est qu'il serait un petit peu vexé que l'OM commence à chercher un autre gardien plus jeune.
Ça peut rajouter, effectivement.
Au final, c'est les performances du terrain qui parlent.
Puis c'est son âge aussi. C'est bien de préparer l'avenir maintenant.
Ces joueurs cadres.
De la même manière dont lui, il a été sélectionné recruté très jeune à l'OM alors qu'il avait déjà Cédric Carrasso, c'est normal que Marseille fasse pareil maintenant.
Greg, merci d'avoir été avec nous. Ah bah il est parti Greg.
Il est parti déjà.
Salut, ouais, lâche rien. Salut Greg, bonne soirée. Merci Greg.
Mais après, ça décharge aussi quand tu passes après Marcelo Bielsa aussi. Tu vois, c'est là où Rudy devrait aussi s'inspirer de l'atmosphère du local. C'est-à-dire que ils ont préféré ne pas gagner des choses ou du moins ne pas aller en haut, rater des choses, mais avec une ferveur, un entraîneur entraînait tout le monde avec lui. Plutôt que quelqu'un qui les amène en finale de l'Europa League, mais qui est beaucoup plus pragmatique, plus réservé.
Hein, ils ont pas la
même
personnalité.
Il faut qu'il arrive à trouver ce système et certains joueurs au mercato qui vont pouvoir mettre un peu de folie.
Marseille a toujours aimé les entraîneurs. Contrairement à ce qu'on pense, Marseille a toujours aimé les entraîneurs limite un petit peu général de guerre, un peu taiseux, qui parlaient pas beaucoup. Style Eric Guéret, style Marcelo Bielsa. Et je suis convaincu que la personnalité de Rudy Garcia, ça colle pas avec les attentes du public marseillais en termes d'entraîneur.
On va demander l'avis à Mousse, autre supporter de l'OM qui est en direct avec nous. Salut Mousse.
Oui, bonsoir.
Salut Mousse.
T'es en train de courir Mousse ou quoi là?
Comment?
Il est toujours essoufflé Mousse.
Non, je vous savez, il y a un soccer futsal à l'Est là, sur le terrain, et quand je vous entends parler, je donne des coups de ballon à fond parce que vous me faites rire.
Écoute, c'est déjà ça, Moussa.
Vous en sortez des belles. Alors moi, je vais vous dire une chose, moi. Monsieur Garcia, ce qui est pour moi une grosse trompette, et il a rien à faire à l'OM, et à un moment que je le dis, quand il se permet de virer Gomis, qu'il a marqué plus de 20 buts dans la saison, pour prendre Germain ou Ocampos, ou je ne sais pas qui c'est qu'il avait pris, déjà, il s'est bien mis le doigt dans l'œil, là. Rien que là, c'est sa première grosse connerie. Et personne n'a rien dit. Voilà. Et encore, aujourd'hui, il se permet de dire, mais on n'a pas besoin d'attaquants. Il va prendre les gens pour des cons toute la saison, lui. Toute la saison, il va prendre les gens pour des cons. On n'a pas besoin d'attaquants. Mais même l'année dernière, vous arrêtez pas de parler de cette finale là. Mais c'est un miracle qu'on ait été en finale. Là. Rolando, il a marqué un but là dans le temps additionnel.
Le front en bois.
Il sait même pas comment il a marqué le but encore là.
À Salzbourg.
Mousse. Ça a été un miracle. Mousse. Mais c'est une grosse trompette cet entraîneur. Il est nul, qu'il en peut plus. Il est allé recruter Mitroglou. Mais vous êtes sérieux avec ce mec là? Attendez, non, c'est bon. Là, et en plus, tout à l'heure, vous dites qu'on est un grand club. Où on est un grand club? On est une équipe.
J'ai dit Mousse historiquement. Maintenant. Historiquement.
Quoi, historiquement?
Eh bien, historiquement, bien sûr.
De parler des historiquement, c'est comme quand vous parlez de l'équipe de France 98. C'est bon, là, on a tourné la page, il faut regarder devant. Et là, on est une équipe de guignols. Et on a des dirigeants, c'est des guignols. Et là, l'Américain, c'est un guignol. Et Ro, lui, il a pensé qu'à faire du ménage dans le personnel de l'OM. Et il nous a baladé avec Balotelli, avec ça, et pour ça, pour rien du tout. Et on va passer une année de galère. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un journaliste qui s'appelle Avisouli à Marseille.
Bien sûr, il est au Perforé.
Ils sont contents, les Tchèques.
Il est
à l'Assemblée.
Il est député,
moi,
il est à l'Assemblée.
Oui, je sais.
Je l'ai rencontré un soir, c'était le match contre Rennes. Je l'ai vu, là, et il me dit, Mousse, tu vas voir, on va passer une saison de galère cette année. Et il ne s'est pas trompé. Et on va galérer. Parce que le championnat français, là, c'est l'un des plus faibles de ces 40 dernières années. Ouais. Là,
c'est pour ça que tu es toujours au contact du podium.
Et voilà. Et en plus, je rigole, hein, parce que je rigole jaune. Quand on me parle de Bounassar, porte de l'équipe de France. Lui, porte de l'équipe de France. Mais et c'est vous, les journalistes, qui disent ça. Mon pauvre. Mais en fait, vous êtes tous des guignols. Les dirigeants de l'OM, les journalistes, tout le monde.
Ah, mais...
et le football français, il est comme les gilets jaunes. Il faut aller tous à la rue et aller et basta. Voilà. Non.
Et Mousse, tenais le même discours ou pas? Tu tenais le même discours déjà la saison dernière, en fin de saison dernière ou pas?
Oui.
Comment?
Est-ce que tu tenais déjà le même discours?
Je témoigne pour toi,
tu as toujours eu le même tête. T'as toujours été conscient par rapport à Jacques Henri Hérault.
Une fois qu'on a dit que tout le monde c'est des guignols, concrètement. Après, moi je peux l'entendre, hein, pourquoi pas.
Mais moi
j'ai jamais dit que Bounassar était aux portes de l'équipe de France. Après,
Je sais pas qui c'est qui me répond là.
C'est Ludo.
Je m'en doutais que c'était toi, mais toi, Garcia, tu l'as eu comme entraîneur.
C'est pour ça que je peux dire certaines choses que vous.
Garcia, tu en penses quoi, toi, Garcia?
Moi, je connais l'homme et je trouve qu'il est aujourd'hui dans une impasse. Je le reconnais, j'ai du mal à le reconnaître, en tout cas sur ces dernières semaines, puisqu'il tactiquement, c'est toujours quelqu'un qui a trouvé un système assez rapidement et qui a réussi à le mettre en place. Mais comme beaucoup, c'est-à-dire que t'as des entraîneurs qui arrivent à tenir en haleine.
Un groupe,
des joueurs sur plusieurs années. Ces entraîneurs-là ont une philosophie bien établie. C'est Guardiola, c'est Klopp, c'est des monstres comme ça. Et tous les autres, ils essayent avec leurs moyens de prendre un peu par-ci, un peu par-là. Ils picorent à droite, à gauche, et ils essayent de mettre des choses en place. Sauf que pour tenir les joueurs en haleine, sur un projet à plus long terme, c'est compliqué. Or là, il n'arrive pas à trouver les solutions. Il en a trouvé certaines la saison dernière, qui ont été plus ou moins masqués par l'envie générale et par la ferveur populaire qui a pu se créer autour de l'équipe. Et c'est vrai que là, je trouve que ces entraîneurs, ils ont surtout, c'est les joueurs qui font ces entraîneurs-là.
Allez, la réponse de Mousse pour finir.
En fonction des joueurs que tu as, tu es un, ça fait beaucoup.
Et vas-y,
il y a un point où je suis d'accord avec toi. Tu sais qui c'est qui a porté l'équipe l'année dernière? C'est pas Rudy Garcia. C'est le public qui a porté l'équipe.
Parce que quand
il est arrivé, on était mal en point, et on a commencé à faire quelques résultats. Le stade, il s'était vidé complètement, et tout le monde est revenu au stade, et avec l'ambiance, et tout ça, ça a fait que... Mais cette année, stade plein, aucun recrutement, et où il est énervant, le gars, c'est qu'il se moque de la gueule du monde quand il dit « mais j'ai pas besoin d'attaquant ». Le mec, il est vraiment de mauvaise foi.
Tu vas pas me dire que tu y crois pas une seconde, Mousse, à ce discours-là. tu y crois pas une seconde à ce discours-là. Tu sais bien c'est un aveu de faiblesse s'il admet que, bien sûr qu'il sait. Mais oui, mais il va pas le dire. Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui a aussi son caractère,
son ego. Il va pas le dire pour pas flinguer les joueurs qu'il a à disposition.
Il va pas le dire ouvertement parce que pour l'instant,
parce qu'il a Germain Mitroglou.
Voilà. Mousse, le message est passé. Bonne soirée, Mousse. C'est bon, bon foot à toi.
Salut, Mousse. Merci. Je peux passer un bonsoir, là, un collègue, là.
Ouais, vas-y.
Allez, docteur Sefsafi à Alès, là. Il y a un vrai supporter de l'OM. Malheureusement, il est triste.
C'est ton proctologue.
Je l'embrasse bien fort. Allez, bonne soirée.
Salut Mousse, bonne soirée, bon foot à toi. Ciao, Mousse. Allez, nous reviens dans quelques instants. On va parler Italie. Il y avait un choc ce soir entre la Juve et l'Inter. La Juve qui s'est imposée 1-0. La Juve qui se balade en Italie. Et Simone Rovera, lui, va se balader dans l'after. À tous les tris.
RMC Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovic Obraniak, de Jonathan Maccardi, il est de retour. Simone Rovera, ciao Simone.
Ah, ciao, buonasera, bonsoir.
Ça va? Buonasera, bonsoir. Ça va, Simone?
Tu manqué là?
Si, m'ha mancato.
Ti sono mancato.
Ti sono mancato, lanciatemi cantare. Quelques infos du jour. Debuchy qui est forfait 6 semaines. Alors, il était sorti face à Bordeaux, le latéral de Saint-Etienne. Il souffre d'une entorse interne de la cheville gauche. Merde. Voilà, on va ouvrir la page étranger.
Très gros coup dur.
On va débuter par la Première Ligue, 16e journée demain sur RMC Sport 1, prise d'antenne dès 13h, avec à 13h30 le coup d'envoi de Bournemouth-Liverpool, à 16h Manchester United face à Fulham, à 18h30 c'est le choc du week-end entre Chelsea et Manchester City, et à 20h45, match entre le Leicester de Claude Puel et le Tottenham de Mauricio Pochettino.
Journée, hein.
Ouais, grosse journée de Première Ligue demain. Jorge Mendes aujourd'hui, l'agent de Cristiano Ronaldo et surtout pour le coup de José Mourinho, qui a répondu aux rumeurs annonçant un départ de Mourinho de Manchester. Déclat de Jorge Mendes aujourd'hui à l'agence Lusa. Des rumeurs annonçant un départ de José Mourinho de Manchester United persistent. C'est totalement faux, dit-il. José Mourinho est très heureux au club et le club très heureux avec lui. Alors sachez qu'il y a pas mal de rumeurs. Donc, il y en a certaines qui annoncent Pochettino notamment.
Si on prend notre décodeur,
ça pue.
Voilà,
ça pue.
C'est lui qui parle portugais, c'est pas nous. Hein.
Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, demain il joue donc face à Fulham, entraîné maintenant par Claudio Ranieri. Vous savez que Mourinho et Ranieri c'était la guerre il y a quelques années. Oh. Là, ça va mieux maintenant. Hein. C'était il y a une dizaine d'années en Italie. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 3 ans, quand Mourinho se fait virer la dernière fois, c'est après une défaite face à Leicester entraîné par Ranieri, et c'était déjà la 16e journée.
Incroyable.
Ça, c'est un signe tout ça, mon pote.
Et donc, il se fait virer demain. Tu me dis ça?
Bah écoute, je sais pas, mais le hasard, tu vois, j'en sais rien, moi, mon pote. Mais si ça arrive, on aura l'heure. Et tiens, et donc, Sarri qui jouera face à Pep Guardiola, Chelsea, Manchester City. Il a été demandé à Sarri comment battre Guardiola, City qui n'a pas encore perdu cette saison en Première Ligue. Sarri qui était aujourd'hui en conférence de presse. Sarri, comment on fait pour battre Pep?
Contre Guardiola, j'ai perdu tous les matchs. Alors je ne sais pas. Il faut demander à quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est bon, c'est drôle.
Ouais, mais c'était des beaux matchs, on s'en rappelle. Manchester City, Napoli, les deux matchs étaient vraiment magnifiques.
Et vous aurez reconnu la douce voix de Nicolas Pelletier sur ce doublage, bien entendu. 15e journée de Serie A qui a débuté par un choc, Simone, victoire 1-0 de la Juve face à l'Inter. La Juve, ça fait combien là? 11 points d'avance sur le Napoli qui joue demain face à Frosinone.
14 sur l'Inter, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est un domination.
C'est incroyable ou c'est chiant?
Non, c'est incroyable parce que c'est une nation que j'ai jamais vue en Italie. C'est chiant. C'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe, ce soir, n'a pas fait un super match, mais quand même, ça reste une équipe très solide avec des champions, une équipe qui ne rate rien, qui quand fait des erreurs, peut-être, là aussi, on peut dire, un petit peu des chances, comme il a eu ce soir sur la seule grande, énorme occasion de l'Inter avec Gagliardini qui prend les poteaux. Mais toi, la différence, c'est ça. La Juve n'a pas un Gagliardini au milieu de terrain dans ce rôle-là comme premier remplaçant à un monsieur qui s'appelle Betancourt, qui va devenir un très très grand joueur.
C'est incroyable,
qui est un talent extraordinaire.
Parce qu'à Boca, ça n'a jamais été...
Oui, mais...
Les gens à Boca, ils ont beaucoup rigolé quand il est parti pour ce prix-là.
Quand tu as du talent et tu arrives dans une équipe qui fait grandir les talents dans un championnat qui est comme une université... Oui, mais aussi il a appris beaucoup au niveau des positions. Quand on parlait avant de Jong, si c'est ça la progression, s'il a les mêmes marges de progression, il devient monstrueux lui aussi. Donc,
à Boca, c'était.
Et Simone, comment tu expliques cette prise de masse musculaire pour des joueurs?
Non, mais vraiment, Betancourt, il a pris 10 kilos.
Travail,
il a pris 10 kilos.
trouve que les séances d'entraînement sont beaucoup plus chargées.
Je pense que si tu te développes à un certain âge et tu travailles à niveau physique, tu arrives.
Non, mais tu vas à la muscu, tu flappes des poids, tu prends des protéines, tu grossis, c'est normal, hein. Surtout à cet âge-là.
C'est du vécu, ça.
Bah ouais, mais
non, mais c'est pas une critique.
T'es pas obligé de te faire des cures pour grossir.
Moi, si tu m'expliques comment je prends du poids dans une autre façon, je mange.
C'est les carbonara, toi.
C'est différent.
Ah, c'est bon. Tout.
C'est un peu différent.
C'est un
plaisir de la vie. Et là, c'est le plaisir de l'entraînement.
Est-ce que ce match était un plaisir, justement? Est-ce que c'était un bon match, Juve Inter?
Franchement. Il y a eu une première mi-temps. Je trouve des extraordinaires qualités. Surtout parce que l'Inter a fait un super match en première mi-temps. Dans l'après-match en Italie, il y avait Fabio Capello sur Sky qui commentait, disait, première mi-temps de très très haut niveau de l'Inter, un niveau que si l'Inter maintient ça en Europe, elle peut jouer une match, je ne dis pas la compétition, etc., mais une match à niveau égal qui est des grands clubs d'Europe.
Bah, ils l'ont montré déjà en Ligue des Champions. Hein.
Ils l'ont déjà montré. Après, l'Inter a baissé des tons dans le deuxième mi-temps et a fait des erreurs. Et la chose incroyable, c'est que la Juve, quand ils voient un peu comme un requin, tu sens l'odeur du sang, et il va prendre son petit poisson. Et la Juve, ça. Et aujourd'hui, l'Inter, c'est une équipe qui fait encore des erreurs, donc n'arrive pas à tenir 90 minutes. Mais pour vous dire, les buts, qui est déjà, il y a une histoire un peu étrange sur ce but, parce que c'est-à-dire, il y a Cancelo qui est à l'origine du centre, il y a Asamoah qui est au marquage de Mandzukic. Il y a quelques mois, Asamoah jouait dans la Juve, Cancelo dans l'Inter. Il y a une raison si aujourd'hui la Juve peut se séparer des Asamoah. Il va prendre Cancelo qui est un des meilleurs latéraux. Donc, ça montre, la meilleure latéraux de la saison dernière, ça montre la différence de puissance même économique du projet de la Juve. Mais le but arrive sur un erreur de position des joueurs Mario, qui ne voit pas Cancelo qui prend de l'avantage sur un coup franc qui est en train d'être battu par Bonucci. Et même si Spalletti, on voit les images, qui crie comme un fou pour dire à son joueur, regarde, tu laisses trop d'espace. Il y a une erreur de position de l'Inter et la Juve marque ce but-là sur cette occasion-là. Il y a une différence extraordinaire. Mais je veux mettre en avance un joueur ce soir.
Vas-y.
Et c'est étrange parce que je dis que la Juve a fait un très bon match, qu'elle a fait un gros match, mais je mets en avant un joueur, et je l'ai dit...
De l'Inter ?
Non. Qui si dans la prochaine saison, il n'est pas dans les 30 nommés du Ballon d'Or, c'est un scandale absolu.
Tu démissionnes ?
J'appelle Zidane.
Zidane, ok. Ah ouais.
Okay. Alors, Mandzukic.
Giorgio Chiellini.
Ah ouais, vraiment.
Il a fait un
match. Qui en a parlé cette semaine? J'ai vu là, parce qu'on parlait beaucoup de Cristiano Ronaldo.
Il a fait un match.
Bah, c'est Spalletti avant le match. On l'a interrogé sur Ronaldo, et il a dit, mais attendez, vous me parlez tous de Ronaldo, parlez de Chiellini aussi, parce qu'il fait une saison de dingue.
Et Pioli, la semaine avant, disait, s'il y a un joueur que je voudrais prendre à la Juve, c'est Chiellini plutôt que Cristiano.
Ouais.
Aujourd'hui, être défenseur, il y a des très bons défenseurs dans le monde, des Sergio Ramos, Varane, c'est un très bon défenseur aussi. Mais je trouve que Chiellini, dans la façon d'interpréter ses rôles et d'être leader et d'être celui qui donne aussi de la force à ses coéquipiers, aujourd'hui, je trouve que c'est les meilleurs au monde. Et s'il n'est même pas dans les 30 du Ballon d'Or, même pas dans les 30.
Après, c'est dans longtemps le Ballon d'Or.
Simone,
il pensait passer beaucoup de choses.
J'ai l'impression qu'il transmet quelque chose à sa défense.
Parce que moi, je vois la Juve aller très loin en Ligue des Champions. Je vois la Juve gagner le championnat. Pour être nommé au Ballon d'Or, tu dois voir une palmarès et une belle saison. Je ne vois pas la Juve perdre son titre en Serie A. Et je ne vois pas la Juve rater sa Ligue des Champions.
Ouais, bon, dans les 30.
Bah, rater, j'entends d'arriver
dans les 30, t'as vu large, donc ça devrait, si.
Enfin, les gars, ça va vite.
Tu vois qu'en étant champion du monde et en ayant gagné la Ligue des Champions, t'es 7e, déjà.
Enfin, ça dépend qui.
Après, je trouve qu'il y a un.
Qui Rafa Varane.
Je trouve qu'il y a une façon différente d'être.
Tu es champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions. Et tu es 7e au Ballon d'Or.
Mais Varane, c'est celui qui est à côté des Ramos. Dans la Juve, il y a un joueur qui est à côté de Chiellini.
Ouais, après, il a tout gagné. Enfin, tout, non, mais. Tiens, accueillons Bachir, qui est supporter de l'Inter et qui a suivi ce Juve Inter aussi ce soir. Salut, Bachir.
Salut. Salut. Bonsoir.
Salut, Bachir.
Bonsoir à tout le monde.
Est-ce que tu danses,
Bachir? Non, déjà.
Référence culturelle,
une très mauvaise soirée, parce que, déjà, pour commencer, Skriniar, il fait un très gros match, déjà. Il parle de Chiellini, Simone, mais, Skriniar, il fait un meilleur match que lui, je pense. Dans l'ensemble, après, dans l'impact.
Il fait un très grand match parce que aujourd'hui, pour moi, c'est les pires matchs de Cristiano Ronaldo en Serie A. C'est-à-dire, il a eu vraiment des difficultés et Skriniar l'a mis.
Techniquement, l'Inter, comme vous disiez, en première mi-temps, était très bien en place. Après, on attendait De Vrij. Après, on a mis la défense de l'année dernière. Ça nous a réconforté, mais bon, ça tenait bien. À ce mois, il est très, très fort à ce mois et tactiquement, il est très, très fort. Ensuite, bah après, vers Schalke, il proposait rien. Offensivement, c'était compliqué. On attendait D'Ambrosio, mais même pour lui, ça aurait pu être compliqué. Brozovic, très grand joueur, comme vous dites à chaque fois à l'antenne, mais depuis cette année, c'est le meilleur joueur de l'Inter. Ça a été compliqué. Après, Mandzukic, il passe devant Asamoah. C'est compliqué pour Asamoah de passer devant Mandzukic de tête. C'est l'un des meilleurs attaquants de tête. Hein. C'est très compliqué après.
Massimiliano Allegri l'a dit après les matchs, son idée sur les centres offensifs de Cancelo, c'était vraiment de chercher Asamoah ou de chercher de l'autre côté.
C'est un très gros match. Hein.
Oui, mais l'idée des jeux, et là où j'ai dit que la Juve ne fait pas des erreurs et quand l'Inter fait des erreurs, elle était punie, c'était que c'était l'idée vraiment de Allegri d'aller chercher toujours des centres sur les latérales plus faibles, c'est-à-dire Asamoah, et de mettre Mandzukic sous cet homme-là.
Après, bon, c'est toujours comme ça avec la Juve. Dans les 20-30 dernières minutes, on tremble et paf, ça tombe. C'est la Juve, hein, c'est une très grosse équipe. Hein.
Et la Juve, aujourd'hui, c'est une des équipes les plus fortes d'Europe. Donc...
Bah oui, c'est très compliqué à les battre. On le voit tous les ans, hein, y a personne qui arrive à les battre. Naples, ils essaient de tenir tous les ans, ça tient jusqu'à la 20e. Après, ils tombent et ça va continuer comme ça. Ils vont prendre le championnat tranquille. Hein.
Merci Bachir d'avoir été avec
ciao.
Nous.
Ciao, ciao.
Merci. Ciao.
Bonne soirée, ciao. À bientôt Bachir. Ciao Bachir. Ciao. Tu restes avec nous Simone?
Ouais.
Il y a Fred Hermel qui arrive dans quelques instants. On va parler un peu de
Liga. Important pour Fred Hermel.
Ah, et on va parler de Copa Libertadores également parce qu'il y a la finale retour enfin et ce sera du côté du Bernabéu. Et il y sera d'ailleurs Fred Hermel, ce sera dimanche à 20h30. Nous reviendrons dans quelques instants avec Ludo Bragnac.
Ah la chance.
Jonathan McCarthy, Simone Rouga.
Il y a des compétitions qui vont au Bernabéu pour voir Fred Hermel, c'est incroyable.
Allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Ludo Bragnac et Jonathan McCarthy, Simone Rovera est toujours avec nous et Fred Hermel nous a rejoint. Salut Fredo.
Qu'est-ce qu'il est gentil, Simone. Il est toujours sympa avec moi.
Pourquoi?
Bah, je t'écoute tout ça, tu envoies toujours des. T'as toujours des trucs sympas à me raconter. Hola, Chicos.
Je viens de dire.
Si tu savais comment tu pouvais parler avec un micro ouvert, toi
c'est
aussi.
Pas possible.
Disais Fred, si tu savais les saloperies qu'il nous a dit vrai. Après pendant la coupure de pub.
Non, c'est pas vrai.
Jamais,
j'y crois pas.
Après, je viens de dire que la Copa Libertadores va jouer à Madrid pour voir Fred Hermel. C'est pas Fred Hermel qui va voir la Copa Libertadores. C'est
mais
ça.
C'est gentil.
Ma question, c'est plus important. Est-ce que le Barça va faire jouer des vrais joueurs face au Tottenham ou fait des rotations, pense au championnat, etc. Bon, ça c'est la juste.
Alors, c'est l'occasion de teaser le derby de demain, 20h45, derby de Barcelone entre l'Espagnol et le Barça.
Voilà. Ça, le scénario vachement bien écrit. Hein. Waouh. Alors, pour répondre à la question de Simonet, le Barça ne perd pas chez lui, il n'aime pas ça. Voilà, okay. Donc je pense que ce serait une équipe très compétitive. Non, parce que c'est vrai que ce match demain soir il va être compliqué à Cornellà del Prat, mais voilà, le Barça a un objectif cette saison, je l'ai souvent dit à l'antenne, c'est Messi qui l'a annoncé, et quand on veut être champion de la Ligue des Champions, même si on est assuré de la première place, on ne lâche pas un match au Camp Nou. Encore moins contre une équipe importante, une équipe anglaise comme Tottenham. Voilà, je pense que le Barça est un club qui a une certaine éthique et le Barça ne va pas sciemment fausser la compétition.
Dis-moi, ça va mieux Dembélé au Barça là? J'ai vu une interview là de Nelson Semedo qui dit, alors il déclare, il est complètement intégré dans l'équipe, maintenant il est plus responsable et il le montre sur le terrain. Voilà.
Faut attendre encore un petit peu quand même, hein, parce que il était comme ça au mois d'août et au mois de septembre, et puis après il a eu sa nouvelle crise. Donc je pense que dans la durée, on va pouvoir se rendre compte si Ousmane Dembélé a un peu grandi, a un peu mûri, et s'il est vraiment intégré dans cette équipe. Mais c'est vrai que ça va mieux. Mais le problème, c'est que j'insiste, je disais ça après ses buts en Supercoupe d'Espagne contre Séville, c'était un match à Tanger d'ailleurs. Après des buts importants à Valladolid, il avait donné beaucoup de points à son équipe, et puis après il a eu sa petite crise. Donc je propose qu'on fasse un point au cœur de l'hiver et je pourrais répondre clairement à cette question. Mais pour l'instant, il est en train de remonter un peu la pente.
Très bien. Un mot également sur le Atlético Alavés de demain. Alors là aussi, c'est une belle affiche. Hein. Alors c'est demain, début d'après-midi. C'est le troisième face au quatrième, hein, finalement.
Ouais, et puis ils sont tous dans un mouchoir de poche, hein, au niveau des points, serré, la Liga, et c'est hyper serré, tout le monde peut battre tout le monde, et bien malin celui qui peut annoncer dès aujourd'hui qui sera le champion d'Espagne. Alors c'est pas surprenant de voir l'Atlético à ce niveau-là, de voir à la veste une équipe qui l'an dernier à la même époque était presque condamnée à la deuxième division, c'est une très bonne nouvelle. Ça se passe bien, il y a bon entraîneur Abelardo qui a joué au Barça, vous en souvenez, hein, qui était l'entraîneur du Sporting Gijón aussi. un match très très intéressant avec une équipe d'Alavés. En fait, quand une équipe d'Alavés est déjà au-delà de la moyenne de points dont elle a besoin pour rester en première division, elle ne joue pas avec le couteau sous la gorge, quoi. Donc en fait, ils se font plaisir. Et il n'y a rien de mieux qu'une équipe qui joue pour le plaisir. Et j'ai souvent l'impression qu'Alavés joue pour le plaisir. Voilà, elle a déjà, je sais pas combien, si on estime qu'il faut, sur cette saison, je pense que 37-38 points vont être suffisants pour rester en première division. Et Alavés en a déjà 24.
Ouais.
T'imagines? Donc, ils peuvent vraiment prendre les matchs comme ça. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'une équipe qui n'a pas peur. Donc, on s'attend à un match plutôt intéressant demain au Wanda Metropolitano.
Tu voulais rajouter un truc sur la Liga ou pas, mon Fredo? Ou on bascule sur la Libertadores?
Libertadores, allez.
Allez, on bascule sur la Libertadores.
Parce que c'est quand même le gros sujet. Et c'est
alors,
vrai
on y
que
va.
C'est
après, tu vas pouvoir voir en exclusivité Ezequiel Palacios jouer avant qu'il joue avec le maillot du Real Madrid alors.
Alors rappel, hein, dimanche 20h30, hein. Finale retour de la Copa Libertadores entre River et Boca. On rappelle qu'au match aller, il y a eu 2-2 entre les deux équipes.
Oui, et puis alors un truc important, les buts à l'extérieur ne comptent pas double.
Exactement.
Bah non, donc à l'égalité. Ouais. Non, c'est important parce que voilà, on a l'habitude ici de la Ligue des Champions, il va falloir s'habituer à la Copa Libertadores. Je vous rappelle qu'elle est aussi en exclusivité hein, sur RMC en télé. Hein.
Et, oui.
Et puis que pour la radio,
on prendra
ça sera
l'antenne à 20h.
Alors voilà. Fredo, elle est comment l'ambiance à Madrid? Parce que alors j'ai vu qu'il y a 4000 policiers qui vont être mobilisés autour de cette rencontre. Il y a certaines inchas, certains supporters qui ont fait le déplacement.
Des Barras Bravas.
Des Barras Bravas également qui ont fait le déplacement aussi, qui sont bah, justement vraiment.
Des voyous.
Voilà,
des
bravos quoi,
des voyous qui servent du football pour divers.
C'est comment, c'est tendu ou pas à Madrid?
Non, pas du tout.
Bon, bah tant mieux.
Pas du tout pour une raison très simple, c'est que il y avait 10 000 places, 10 000 billets qui étaient réservés pour les Argentins d'Argentine, 5 000 pour Boca, 5 000 pour River, et que 3 000 ont déjà été rendus parce que ça coûte une fortune de venir quoi. C'est-à-dire qu'à moins de 1 000 euros, c'est impossible de venir à Madrid. Et quand on sait que, et j'en parlais avec, en fait, mon blanchisseur est un Argentin.
D'argent?
Et je suis. Comment? Non, de fringues. J'ai pas assez d'argent pour.
Celui qui nettoie tes slips, quoi.
Non, là, les slips, je fais tout seul. Mes costumes, mes chemises, voilà.
Et
voilà.
Cette année, l'Argentine, c'est pas du tout un bon marché, tu vois.
et il me disait, enfin, le salaire moyen d'Argentine, c'est 400, 500 euros.
C'est ça.
Tu peux pas mettre deux fois ton salaire mensuel dans un billet d'avion, donc c'est compliqué. Et j'ai parlé à plusieurs, je me suis baladé, en plus, j'ai plein de copains argentins ici. Vous savez que j'aime beaucoup le tango, donc je connais beaucoup d'Argentins ici à Madrid. Et ceux qui sont venus ici, en fait, sont des gens très pacifiques. Il y a eu un leader des Barras Bravas, justement, de Boca.
Qui a été
remis
dans l'avion.
Hein. Que lui, il a pas pu le prendre. Et celui de River, il est arrêté à Barajas, à l'aéroport, et ils l'ont renvoyé. Ouais. On essaie d'empêcher. Et moi, tous les gens avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils ne s'inquiétaient pas. Le reste, l'immense majorité des gens qui seront au stade, ce sont des Argentins d'Espagne. En plus... des Argentins d'Espagne qui ont l'habitude de voir les super classicos à la télé dans les bars argentins ensemble. Ouais. Donc il y aura pas de problème.
Non, et
tu
non.
as raison de préciser.
Ça va être blanc ou pas, Fred?
Ah ben bien sûr.
Ah,
bah,
oui. Ça va être un truc
de fou.
Bah, ça va être un truc de fou. Il y aura quand même pas l'ambiance qu'on aurait pu avoir sur le match retour au Monumental avec les Messi et compagnie.
Mais pour ça, il y a c'est simple. Il faut uniquement accuser les violents qui ont empêché ce match.
Exactement, Fred. Je suis assez d'accord avec toi.
Voilà, là le truc. L'Espagne en service.
Question de Simonet, c'est vrai. Messi sera là. Alors il y avait une rumeur. D'ailleurs, Messi et Ronaldo. Ronaldo a déjà démenti en disant qu'il pouvait pas être là. Messi. Non.
Il joue demain soir à Cornellà del Prat. Il peut prendre un train direct, il peut prendre un avion.
Il n'est pas vraiment concerné ni par.
Il est supporter de Rosario,
des
Old Boys. Donc, peut-être qu'il sera là, mais en tout cas, c'est pas confirmé. Donc, cette information a circulé, mais moi, personnellement.
Après, il y a une chose à dire sur ce match-là qui est quand même assez lunaire, c'est que Boca essaie toujours d'avoir gain de cause et de gagner et d'avoir gagné le match.
Sur
tapis vert vis-à-vis du TAS.
Ils ont d'ailleurs saisi le TAS, voilà, exactement, pour essayer de gagner sur tapis vert.
Ouais, enfin, ça serait quand même très compliqué, mais je trouve que ça serait quand même une insulte pour leurs propres supporters, parce que même ceux qui ne sont pas venus d'Argentine.
Fred, je vais te couper tout de suite, c'est pas pour leurs propres supporters, c'est une insulte pour le club en lui-même. Peux pas te dire que t'as gagné la Libertadores face à ton plus grand ennemi, ton ennemi fratricide, sur tapis vert. C'est impossible.
Non, bien sûr. Non, mais surtout que là, les gens sont là où ils sont en train d'arriver. Donc il y a des gens qui ont investi des sommes folles pour être ici. Puis même ceux, par exemple, il y a des Argentins de Paris que je connais qui sont là. Il y a des Argentins de Valence, des Argentins, ils dépensent de l'argent pour venir, l'hôtel, la place au stade qui n'est pas donné, voilà, donc c'est pas évident. Tu parlais Nico des mesures de sécurité, 4000 policiers, il faut une comparaison qu'on puisse comprendre. C'est énorme pour un match. C'est du jamais vu à Madrid, pour une raison très simple, c'est que vous vous souvenez malheureusement d'un Madrid-Barça qui s'était déroulé une semaine après les attentats du,
oui,
de novembre 2015 à Paris.
Tout à fait.
Il y avait des mesures, mais terribles de sécurité avec plusieurs cordons, policiers, des fouilles, etc. Et c'était 2000 policiers.
Eh ben,
là, c'est 4000 demain. Donc
après,
ceux qui voudront foutre le bordel, mais je pense qu'ils auront affaire à la sécurité espagnole.
Il y a très peu de chances qu'il se passe quelque chose. Hein.
Finir.
Ouais, non,
il y a très
non.
peu de chances. Alors, et pour finir, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a toujours aucune idée des compositions d'équipe, des deux équipes. Il y a non. beaucoup de doutes. Donc, est-ce qu'il va jouer avec Pavone? Est-ce que Boca va jouer avec Pavone d'entrée? Est-ce que il y a même des rumeurs qui me semblent un petit peu exagérées, mais que Tevez pourrait commencer le match? Donc, c'est assez intrigant.
Bah, Tevez, Gago, il y a plein de joueurs qu'on connaît bien ici. Et Gago,
il
joue
aucune chance qu'il joue. Il joue plus titulaire, mais.
Non, mais il a fait la conférence de presse, mais il est là, ouais. Donc.
Il a une importance, il peut jouer peut-être voilà. les 20 dernières minutes, quoi, mais il a une importance.
Tiens, reste avec
Gago, Gago était un échec au Real Madrid, mais il est resté quand même 3-4 ans.
Oh, reste avec nous, Gago. Juste le temps de vous dire que c'est le retour du championnat universitaire de foot à 5. RMC, la Fédé française du sport universitaire, le 5 RMC Sport, lance la 4e édition de la RMC 5 Cup. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur rmc.fr pour les étapes qualificatives qui sont organisées dans, pendant 10 semaines dans 16 villes de France. La finale, elle aura lieu le 27 avril 2019. Ce sera au 5 Paris 18e. Voilà, on vous souhaite bonne chance. C'est sur rmc.fr. On voulait également vous dire merci parce qu'aujourd'hui, on a reçu une info qui est plutôt sympa. Ouais. Vous dire merci parce que l'After est le deuxième enregistrement le plus écouté en 2018 sur l'Apple Podcast.
Et ouais.
Apple Podcast. Et après, une institution qui sont les grosses têtes quand même. Alors c'est-à-dire grosses têtes, on a tous grandi avec, ça a 40-50 ans, et derrière vous avez l'After. Donc voilà, merci à tous de nous écouter en podcast. Toi qui là t'es le matin, là t'es samedi matin, t'es en train de nous écouter en podcast ou à l'heure à n'importe quelle heure. Bah juste merci mon pote, parce que voilà, c'est on clair. Est la deuxième émission la plus écoutée, la plus podcastée.
Je sais qu'on a même des agriculteurs qui partent au champ en écoutant, parce que maintenant les tracteurs, hein, moi qui suis paysan, c'est hyper moderne, qui écoutent.
Bah moi c'était mon cas parce que mon père est paysan, c'est ce que je faisais.
les podcasts de l'After, donc c'est vrai. Donc merci à beaucoup, et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de tweets le matin.
Ouais, c'est clair.
De gens qui font des réflexions par rapport à ce qu'on a dit le soir.
Le nombre de personnes que je connais qui vont à la muscu en écoutant le podcast.
Tout le monde. Chacun son truc. Moi, je prends les tracteurs. Jonathan, il parle de la muscu.
Ça rend super humble, quoi.
C'est ça la différence entre lui et nous, mon frère, dans l'équipe. Ouais.
Moi, je connais personne qui va à la musculation et qui écoute le podcast.
Ouais, ouais.
Parce que moi, je connais personne qui parle.
Les gars, vous le saviez, il y a des cadeaux, les gars, les meufs d'ailleurs, il y a des cadeaux à gagner sur au 732-16. Il faut envoyer Noël au 732-16 tous les jours. On fait gagner des cadeaux. On accueille Loïc, qui est le gagnant du soir.
Bravo.
Salut Loïc.
Et bonjour.
Alors Loïc.
Bravo.
Bravo Loïc. Je vais ouvrir ton cadeau. Je vais ouvrir ton cadeau en direct, mon pote. C'est dans une enveloppe. Voilà.
Bon, je elle est ferme et elle est scellée. Hein. On peut te le confirmer. Ah,
maître Fabio Capello qui est en régie, bien entendu.
Une cacahuète.
Et bah t'as gagné une enceinte JBL Flip. Voilà mon pote.
Ah
mais
super.
Voilà.
Merci.
Bravo en tout
Merci
cas.
Loïc. Pour mettre de la musique à fond et faire chier tes voisins.
Pour mettre ton podcast de l'After surtout mon gars. Mmh. Eh ouais mon garçon.
La copine ne veut pas être contente, mais bon c'est pas grave.
Mais non mais
c'est pas grave.
On lui mettra des musiques d'amour.
C'est pas le canard.
Voilà.
Allez, bonne soirée Loïc,
merci à vous aussi, bonne soirée.
Merci. Merci Fredo, merci Simonet, merci ciao, Jonathan, ciao. Merci Ludo, nous on
merci
se retrouve
Nicolas.
Demain à 22h bien entendu, 22h30 d'ailleurs après les matchs de Ligue 1, les deux qu'il y aura d'ailleurs demain soir. Merci à toutes et à tous, merci Jérôme Thomas.
Et merci à ceux qui seront demain matin.
Ouais. Et merci à ceux qui seront en podcast d'ailleurs. Bisous, à demain,
22h. Oh 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 oh
RMC Football Show, l'After Foot.